Mais on reçoit David Gauthier. Salut David.
Salut Valérie.
T'as des questions pour moi?
Oh que oui! Il y a toujours une chronique à quelque part où je travaille un petit peu moins fort.
Ouais, puis là, moi, j'ai comme un petit peu de pression là, pour performer.
Oui, ben la dernière fois, tu t'es replacé.
Mais ce qui est important, c'est d'apprendre des choses.
Oui! Mais puis je le répète, la dernière fois, je t'ai posé des questions, puis je pense qu'après trois questions, ça allait pas bien.
Non, ça allait pas bien.
Mais après, t'as eu tout bon.
C'est parce que je suis bien, me justifier après. Oui, mais tu peux te montrer que j'ai d'autres connaissances.
Oui, ou peut-être mes questions, j'ai fait plus difficile parce que je sais que tu connais tellement d'affaires que je fais attention à ce que je vais demander.
Mais ça, t'es à mon niveau.
Ah, oh, mais j'essaye.
On le plus possible.
Et voilà.
OK, d'accord.
On y va. Question 1. Alors. C'est d'intérêt public quand même. La consommation chronique d'alcool à long terme serait plus dommageable pour le cerveau que la consommation chronique de marijuana.
Je vais dire oui.
C'est vrai.
Ouais. Moi, je compte toutes ces affaires-là.
Oui, je le sais. Et tu fais bien, c'est correct. Là. Je veux dire, je suis pas contre un verre d'alcool, mais la consommation chronique d'alcool à long terme, ça, c'est pas bon.
C'est parce qu'on oublie que c'est une drogue, l'alcool. C'est tellement banalisé que ça, c'est aussi une drogue.
À vrai dire, tout est une question de modération. Voilà. Effectivement, là, c'est parce que dans le fond, l'alcool, c'est quelque chose qui ne nous causera pas de tort si c'est bien utilisé, si c'est bien consommé. Tu sais. C'est quand c'est chronique que c'est problématique.
Hey, j'ai une question pour toi.
Vas-y donc.
Tu sais, Éducalcool dit que c'est 5 fois par semaine, 3 verres pour les hommes, 2 verres pour les femmes.
Oui.
Je trouve ça beaucoup trop.
Ben, écoute, c'est drôle.
C'est parce que je bois pas que je pense ça ou...
Ouais, c'est drôle parce qu'à chaque fois, moi aussi, je trouve que la consommation ne tombe pas parce qu'ils l'ont augmenté, hein. Écoute, c'est pas scientifique ma réponse, mais en même temps, moi aussi, quand je vois ça, je me dis, mon Dieu, quand même, tu sais. On a vraiment le droit de prendre 3 verres. Puis tu sais, moi, quand je rentre de travailler, je vais l'avouer au micro aujourd'hui, mais j'aime ça prendre un verre de vin. Mais
même toi!
Même moi! Mais mais écoute, je dis toujours, il me semble que le deuxième verre de vin un mardi soir, non. Je veux dire, fait qu'on dirait que non, mais il y en a qui supportent mieux l'alcool aussi, là.
Ah oui.
Je veux dire, il y en a qui, bon, écoute. Mais je reviens à ma question.
Oui.
Je tiens à dire, là, c'est parce que j'ai vu une étude assez intéressante, 439 ados, 853 adultes, qui ont quand même pris une bonne cohorte de personnes. Et ils ont passé une imagerie médicale, OK, sur ces gens-là. Puis ça révélait que les gens qui avaient cette consommation chronique d'alcool-là, leur volume de substances grises dans le cerveau avait diminué plus qu'avec la marijuana et qui avaient plus de difficultés à maintenir la substance blanche. Est-ce que tu vas me poser la question, c'est quoi la différence entre les deux substances?
Oui, je te pose la question, j'ai la réponse. C'est quoi la différence?
Non, mais à vrai dire, là, juste pour comprendre, dans le cerveau, la substance grise, c'est la substance qui reçoit l'information, qui traite l'information et qui va donner notre réponse.
Okay. Okay?
La substance blanche, ce qui fait la substance blanche, c'est la petite myéline qui est autour de nos neurones là, et c'est ce qui propage le message.
OK? Ah oui.
Donc, on reçoit le message, on le traite, on renvoie à réponse, puis là, tout ce message-là doit défiler, ça défile dans la substance
blanche. C'est réponse, mais c'est pas capable de se livrer, c'est pas bien ben mieux. Hein?
Ouais. À vrai dire, quand t'as trop bu, t'es pas capable de la traiter, puis t'es pas capable de l'envoyer, puis que ça va pas bien.
C'est tentable.
Il y a du monde qui se reconnaissent peut-être, hein, des fois, quand on boit trop. Question 2. On a parlé d'hypertension ensemble il n'y a pas si longtemps.
Oui.
Alors, je vais te poser la question. Les cibles visées pour la tension artérielle, quand on est à la maison et qu'on prend notre pression, ce qu'on vit, c'est d'être en bas de 140 sur 90.
Ouais.
C'est faux. Passe. Si vous êtes à la pharmacie, puis vous venez me voir, puis j'ai mon sarro blanc sur le dos.
Juste ça, c'est l'effet sarro. Hein?
Et voilà. Donc, et vous n'êtes pas chez vous, vous n'êtes pas dans votre, dans votre environnement habituel, et vous avez marché pour venir. Fait qu'on va vous dire, asseyez-vous 5 minutes, on relaxe 5 minutes, les bras décroisés, les jambes décroisées.
Puis parlez pas.
Et parlez pas. Fait que là, des fois, c'est le pharmacien, c'est de sa faute. Moi, des fois, je vais jaser, puis il faut que j'arrête de jaser. Mais on va viser en bas de 140 sur 90. Mais les gens qui sont à la maison, on vise en bas de 135 sur 85. OK?
Et moi, je gagne là-dessus. Là, j'ai un A+.
Oui, toi, quasiment, il faut que je te demande d'être plus haut que ça.
Valérie va faire un tour du bloc.
Oui, va courir, je vais prendre ta pression. Mais écoute, il faut savoir la différence parce que si vous êtes toujours à 139 sur 89 à la maison, peut-être ça vaut la peine d'aller voir un petit peu plus loin, d'aller voir votre médecin. Il se fait, je sais pas si tu connais ça, ce qu'on appelle le MAPA, qui est un suivi de pression à domicile. Okay? Donc, à la pharmacie, on offre ça. Et souvent, les médecins, tu sais, ce qu'il y a d'intéressant, c'est que si vous allez voir votre médecin et que votre pression est haute, puis qu'on pense que c'est à cause du sarro blanc, finalement, le médecin va avoir tendance des fois, donner un médicament puis à traiter tout de suite. Mais il y a bien des médecins qui vont dire, je vais te donner un MAPA. Pendant 24 heures, tu vas l'avoir sur le dos chez vous. Et là, on va regarder si ta pression est réellement haute et voir si tu as vraiment besoin de contre-médicaments.
MAPA, ça là.
Comment?
MAPA, ça là.
Oui, c'est ça.
OK.
Pas pire. Troisième question. 90% des diabétiques sont des diabétiques de type 2.
Oui.
Et c'est vrai.
C'est parce que le type 1, tu nous as appris que c'était juvénile, c'était de naissance.
Exactement.
Et l'autre, donc, c'est causé par les mauvaises habitudes de vie.
C'est ça. Si on résume, c'est ça. Dans le monde, il y a 425 millions de diabétiques.
Oh.
Donc, c'est une épidémie, là, carrément. Et au Québec, 830 000, il y a 10% de la population qui sont diabétiques. Okay? Donc, c'est pas pour rien qu'on se tient à jour, nous autres, dans nos traitements de diabète, là, parce que c'est super important. Mais oui, 90% sont de type 2. Parlant de ça, 75% de nos patients diabétiques atteignent leur cible thérapeutique. Vrai ou faux?
Oh, c'est une bonne question.
Donc, il y a 3 personnes sur 4 qui sont diabétiques qui, avec leur traitement, on atteint les cibles. Donc, je parle de, mettons, de l'hémoglobine glyquée dans le sang. On veut que ce soit en bas de 7%. On l'atteint à 75% du temps.
J'aimerais ça te dire oui, mais je pense que c'est non.
Ouais, c'est non.
Ah.
Ouais. C'est 50% environ. Okay?
Ah, ouais.
Donc, il y a probablement différents problèmes. Problèmes d'observance, peut-être. Hein? Il y a des gens qui oublient de prendre certains médicaments ou qui ne veulent pas les prendre des fois. Des fois, dans les habitudes de vie. Des fois, dans les traitements. C'est une maladie qui est quand même assez compliquée, des fois, de trouver le bon traitement pour la bonne personne, donc d'avoir un bon ajustement, mais c'est quand même quelque chose, le 50%, donc
ben oui.
Ça vaut la peine d'approfondir un petit peu. Et si vous êtes diabétique, peut-être d'avoir, premièrement, de prendre vos médicaments, puis deuxièmement, de faire des bons suivis, que ce soit avec votre médecin, avec votre pharmacien, mais ça vaut la peine. On a encore un petit peu de temps?
Oui, vas-y.
OK.
Oui, vas-y.
L'hypertension se guérit grâce aux médicaments.
Se guérit, non, ça se guérit pas.
C'est ça,
ça se stabilise.
Ça se traite. Et important, si vous allez bien grâce à vos médicaments et vous faites de l'hypertension, lâchez pas vos médicaments, c'est à cause du médicament que ça va bien. Donc, je le dis, je le redis, parce que c'est le genre de choses qui arrivent très, très souvent en pharmacie. Je finis rapidement parce que ça va t'intéresser. L'hypercholestérolémie.
Oui, ça, ça se guérit pas non plus.
Peut se traiter grâce à l'alimentation et à l'exercice seulement.
Non!
Oui!
Ben, ça dépend pour qui.
Et voilà!
Parce que moi,
mais là, tu parlais de toi, oui.
Oui, c'est ça.
À vrai dire, là, vite, c'est que les gens qui arrivent au bureau du médecin, ils ont fait une prise de sang, puis que le cholestérol est trop élevé. Normalement, selon une ligne directrice, on pourrait dire, dans plusieurs cas, pas dans tous les cas, mais dans certains cas, tu retournes à la maison, dans les 3 prochains mois, tu fais attention à ton alimentation, tu fais de l'exercice 30 minutes par jour, au moins 5 fois par semaine, et tu reviens boire dans 3 mois, puis on va regarder ce que ça donne.
J'y crois.
Oui, mais pour de vrai, oui, ça peut bien fonctionner. On peut améliorer le bon cholestérol, on peut diminuer le mauvais cholestérol. Ceci étant dit, ça dépend des gens, ça dépend des antécédents des gens, ça dépend des cibles qu'on vise aussi, parce que c'est pas les mêmes pour tout le monde. Donc, on a des gens qui sont nos patients diabétiques hypertendus, cardiaques, on va viser peut-être en bas d'1,8 qui va être notre cible de mauvais cholestérol, mais chez quelqu'un d'autre, on peut viser en bas de 3 aussi. Donc, ça dépend des patients, mais je vous le dis quand même, ça a un impact. Fait que ça vaut la peine peut-être d'y jeter un petit coup d'œil.
Et pourrais-tu me dire, comme ça, à vue de nez, les pourcentages de gens qui sont comme moi, qui, malgré une hygiène de vie qui est en haut de la moyenne, sont quand même aux prises avec des gènes?
Oui, au niveau des gènes, il n'y en a pas tant que ça. OK?
Okay.
J'ai pas le chiffre. C'est drôle parce que j'ai eu une formation récemment sur un nouveau médicament et le médicament allait servir seulement aux gens que c'était génétique. Et le pourcentage était très, très bas. Je ne veux pas dire n'importe quoi, mais c'est sûr que c'est en bas de 10%.
OK. Okay?
Par contre, ce qui est difficile aussi à calculer, puis ta question est excellente, là. Je vais essayer d'aller fouiller puis te revenir avec ça dans une prochaine chronique. Mais ce qui est difficile aussi à savoir, c'est qu'à partir du moment qu'on a un patient qui fait de l'hypercholestérolémie et qu'on ne fait pas les démarches qu'on devrait peut-être faire, c'est-à-dire changer les habitudes de vie, ça commence à être dur de savoir dans quel pourcentage qu'on aurait changé quelque chose.
Ouais.
Parce qu'il faut comprendre une chose, c'est que le cholestérol, moi, du cholestérol, j'en mange et j'en produis. Okay?
Mm-hmm.
Normalement, c'est un métabolisme. Donc, plus j'en mange, moins je vais produire de mauvais cholestérol parce que mon corps en a ingéré. Okay? C'est un métabolisme qui peut se perdre dans le temps. Donc, on a beau avoir le meilleur patient devant nous, ça se peut que même s'il fait super attention, son corps va continuer à produire du mauvais cholestérol, même s'il en ingère. Donc, c'est un métabolisme qui peut se perdre avec le temps et la personne va finir par faire du cholestérol, malheureusement, même si c'est un bon patient. Fait que moi, je dis souvent aux gens, faut pas trop non plus se taper ses mains et dire que c'est tout le temps de notre faute. Là. Ceci étant dit, ça peut aider, mais en même temps, c'est un métabolisme qui peut se perdre aussi.
Bon.
Donc, il y a différentes causes.
Hey, merci pour ces détails. C'était super intéressant.
Ça fait plaisir.
Puis, on va te voir chez Brunet si on a des questions.
Oui, on va être là.
Bye-bye.
Merci, bye.